Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Et après le calme, le retour de la tempête politique, les voix de la politique. Vous l'avez entendu, les auditeurs de Sud Radio qui se disent qu'il n'est pas trop tard pour faire reculer l'islamisme dans ce pays. Ça nous amène à cette question toute concrète. Est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est-ce que Jean Castex, le Premier ministre, ou Emmanuel Macron, le président de la République, est-ce que le gouvernement, en bref, ont les moyens de faire reculer l'islamisme? On en parle avec nos deux invités ce soir. Guillaume Bigot, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie.
Politologue, essayiste, auteur d'un livre qui est à paraître justement, La populophobie.
Après-demain.
Après-demain, exactement. Publié chez
Plon.
Publié chez Plon. Nous sommes toujours avec Rosa Méziane qui fait une demi-heure supplémentaire avec nous sur
Sud
Radio.
Exactement.
Fondatrice de Move Territoire. Je le disais, le gouvernement a-t-il les moyens concrets aujourd'hui, avec la loi telle qu'elle existe, pourquoi pas, de faire reculer l'islamisme? Faut-il aller plus loin? Faut-il dissoudre davantage d'associations? Ce sont les pistes qui ont été esquissées notamment par le ministre de l'Intérieur. On en débat tout de suite sur Sud Radio. Jean Castex, aujourd'hui le Premier ministre, qui promet une lutte avec une énergie sans faille contre l'islamisme radical, qui fustige évidemment cet assassinat barbare qui nous laisse encore, je le cite toujours, dans un état de sidération collectif. Alors ça, ce sont les mots, c'est l'émotion, on a l'habitude, effectivement. Après, il y a des actions. Prenons un exemple avec deux associations qui sont aujourd'hui dans le viseur du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'une est humanitaire, elle s'appelle Baraka City. L'autre lutte de son, d'après ses statuts, contre ce qu'elle appelle l'islamophobie. Il s'agit du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Faut-il les dissoudre? On va commencer par parler d'un cas concret. Guillaume Bigot.
Bah, ladies first, non je...
Allez,
non,
Rosa Méziane.
Ça fait une heure que je suis là, donc je vous en prie.
Allez, allons-y, on se lance alors. Oui, il y a, si vous voulez, il y avait des actions déjà à mener, bien sûr, contre les djihadistes, et ça c'est bien normal. Mmh. Avec un risque néanmoins, qu'on souligne pas suffisamment, parce que je crois qu'il faut essayer d'endormir un petit peu les enfants, mais là c'est plus possible, c'est un risque de débordement, dont voilà, les gens de la DGSI et autres parlent, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de parler, ces gens-là, mais quand ils parlent, débordement en quantité, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires.
D'accord.
Prenons un exemple concret. Pour vraiment avoir à l'œil une personne extrêmement dangereuse, il faut entre 5 et 10 fonctionnaires. D'accord. Donc aujourd'hui, vous regardez, il y a un fichier, le fameux fichier là, est de 20 000. À l'intérieur de ces 20 000, il y en a 8 000 qui sont un peu chaud patate. 8 000, il faut multiplier par 10. Voilà. Si vous regardez les effectifs de la DGSI, déjà, si vous regardez les effectifs même...
Service de renseignement intérieur.
Tous les services d'enseignement, on est déjà à la limite.
Voilà. Et là, on parle
bien sûr qu'il y a du renseignement électronique. Hein. Bien sûr, il ne faut pas non plus inquiéter tout le monde. Et c'est très efficace.
Il y a des moyens. Mais ceci, vous parlez les cibles dont vous parlez. Alors,
le djihadisme
pour le coup,
ensuite,
et du terrorisme. Parlons de l'islamisme.
Ensuite, j'ai l'impression que le gouvernement sort un peu de sa torpeur. Pas le choix, parce qu'il y a maintenant quelque chose qui ressemble à un dégradé. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème de cette question, c'est qu'on a, nous, on se raconte encore une fois une histoire pour endormir les enfants, c'est-à-dire qu'il y a des parois étanches entre, d'un côté, les gens qui passent à l'acte, les djihadistes, dont on nous a expliqué que c'était des gens qui relevaient la psychiatrie, etc. Enfin, on n'a pas voulu voir que c'était une idéologie. Et donc, les gens qui, croyant à cette idéologie, passent à l'acte. Donc, ceux-là sont dans la criminalité. Et de l'autre côté, les gens qui partagent la même idéologie. Parce qu'entre le gars qui a décapité Samuel Paty et Tariq Ramadan, la seule différence, c'est que l'un respecte les lois et l'autre décide de passer à l'acte. Ils ont le même agenda politique. D'accord ? Donc là, on peut considérer qu'il y a un dégradé et que dans ce dégradé, il y en a des plus ou moins sournois, des plus ou moins habiles. Maintenant, ceux qui sont un peu borderline, le gouvernement à l'intérieur de l'état de droit commence à les taper. C'est-à-dire qu'il se sent autorisé politiquement à les taper, parce que ils se rendent bien compte que le choc sur l'opinion publique,
plusieurs
le
choses
choc et
annoncées
froid,
notamment plusieurs choses annoncées notamment par Gérald Darmanin, dont l'expulsion de 200 personnes radicalisées, l'expulsion hors de France. Alors je dis 200 personnes à la louche, hein, c'est plus ou moins, un peu plus ou un peu moins. Alors on pourrait se poser une autre question aussi: s'ils étaient si dangereux, s'ils posaient un problème, pourquoi pas les avoir expulsés plus tôt si on en avait les moyens juridiques, par exemple?
Exactement, d'autant qu'ils sont 3000 parmi les 8000, en fait, des gens qui sont très très à risque. Il y en a pas 200, il y en a 3000 de nationalité étrangère. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a une procédure aussi dont personne ne parle. Moi, mon ancien patron, Charles Pasqual, l'avait utilisé contre les gens qui étaient dans l'ambassade d'Iran.
Il faut terroriser les terroristes.
Oui, et donc l'arme juridique existe au plan administratif en France. ça s'appelle l'urgence absolue. Mmh. C'est-à-dire que si vous considérez que c'est une urgence absolue d'expulser un ressortissant étranger, au nom de l'intérêt général, vous l'expulsez dans les 48 heures. Donc il y a 3000 personnes qui devraient être dégagées en 48 heures. Pourquoi ils ne dégagent pas? Point d'interrogation. En dehors des problèmes logistiques, parce que évacuer 3000 personnes, c'est pas si simple en 48 heures.
Ça se fait pas tous les jours. Rose, revenons d'abord sur les profils les plus dangereux, ceux qui sont concrètement très radicalisés et susceptibles de passer à l'acte.
Ouais, alors il faut savoir que nos services de renseignement travaillent beaucoup en réseau aujourd'hui. Et donc, ils ont des éléments, des informations qui émanent d'élus, qui émanent d'enseignants, qui émanent d'associatifs. Et fort heureusement, on ne met pas un type derrière chaque personne. Et que
ils ont aussi,
le travail en réseau mais produit énormément de résultats.
Petite parenthèse à ça pour compléter. D'ailleurs, ils ont aussi beaucoup d'informations qui reviennent de services secrets de pays étrangers, notamment
également
ceux du Maroc, par exemple, qui sont assez bien renseignés sur certaines filières
djihadistes. Mais c'est ce qui a permis, par exemple, d'arrêter les terroristes du Bataclan, si je ne dis pas de bêtises. Donc bien sûr, alors après, est-ce qu'il faut faire du renseignement comme au Maroc, où c'est quelque chose de généralisé, et c'est peut-être ce qu'appelait de ses voeux Emmanuel Macron la société de vigilance, mais pourquoi pas. En tout cas, il ne faut pas minimiser le travail des renseignements, mais c'est vrai qu'on pourrait encore plus le renforcer. Maintenant, sur la question de l'idéologie. Aujourd'hui, l'orthodoxie religieuse n'est pas condamnée. Et c'est peut-être là la difficulté. L'orthodoxie, pardon. Oui, c'est ça. L'orthodoxie religieuse n'est pas condamnée. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, criminaliser l'islamisme comme l'a été le nazisme ou le négationnisme? C'est peut-être une des voies. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que derrière l'islamisme, chacun a envie un petit peu d'y mettre ce qu'il souhaite. On l'a vu tout à l'heure avec l'auditrice Isabelle. On a expliqué que tout musulman était au final un islamiste. Là, c'est dangereux. Moi, je l'ai entendu.
Autre chose, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend.
Et on va revenir d'abord sur... si on veut, à un moment donné, criminaliser l'idéologie, alors il faut savoir exactement ce qu'on y met derrière, et puis surtout comment ça se construit dans notre société.
Mais petite parenthèse, du coup, enfin, on va s'arrêter là-dessus, on va faire un petit arrêt sur image sur votre piste. D'abord, c'est quoi votre définition de l'islamisme? Je ne parle pas du terrorisme, pour le coup, là, je parle de l'islamisme. Vous avez dit vous-même orthodoxie religieuse que vous dites, vous dites qu'on pourrait la criminaliser. Alors, ça, on commence à partir de quand on cesse d'être musulman pour vous, et à partir de quand on commence à devenir un islamiste?
Alors, écoutez, c'est très simple. Moi, je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, et je vais rester très humble par rapport à mon niveau de connaissance. Je pense qu'on ne peut pas s'improviser théologien. En toute transparence. Et ce travail-là, il est à faire avec effectivement des théologiens musulmans, des juristes également, des professionnels de la laïcité. Et si on ne se met pas tous autour de la table pour d'une part définir cette idéologie, mais surtout comment elle s'exprime au quotidien, quels sont en fait les espaces insidieux où elle est capable de s'infiltrer.
Et pour vous, c'est quoi par exemple on a compris que personne n'était
théologien. Tout ce qui de près ou de loin réfute nos valeurs républicaines. Tout ce qui, à un moment donné, typiquement, tout ce qui refuse les égalité homme-femme, tout ce qui, à un moment donné, ne permet pas la liberté d'expression, tout ce qui refuse la mixité. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est des idées simples, mais ça va aussi plus loin. C'est quand, à un moment donné, on veut organiser en globalité une société qui peut mener, à un moment donné, à un niveau plus guerrier, c'est-à-dire prendre le pouvoir, ou par les urnes, ou par la force. Et là, il y a effectivement un modèle de société qu'il faut condamner. Et donc, si on veut combattre centimètre par centimètre, il faut être beaucoup plus clair. Mais, vous savez, on a dévoyer toutes ces notions au fur et à mesure. Je disais tout à l'heure, sur la question de la religion, il y a divers courants de
bien
l'islam.
L'islamisme, d'ailleurs.
Exactement. Et divers même courants de salafisme, entre le salafisme quiétiste et le salafisme guerrier. Donc, toutes ces notions-là ne sont pas maîtrisées par l'ensemble des Français. Alors, ils n'ont peut-être pas besoin de le maîtriser, mais c'est à un moment donné comment on arrive à déterminer des choses très simples et très claires. Et je pense qu'il est là, peut-être, le chantier. Parce que sur la question du terrorisme, on arrive à assez bien la cibler, même si
on sait à quoi correspond le profil, toujours, mais on n'arrive pas à l'empêcher, mais au moins on sait de quoi on parle.
Le profil, il est protéiforme. Enfin, c'est-à-dire que, je suis désolée, mais quand vous allez avoir un frère Kouachi, ça ne va pas être la même chose que ce Pakistanais, et non, encore moins les frères Klein
ou
Maxime Huchard.
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on sait comment, on sait sur quels critères dire telle personne est un terroriste, telle autre n'en est pas.
Exactement.
C'est plus difficilement dire telle est musulman et telle autre est islamisme. Quelle est la différence d'ailleurs? Musulmans, islamistes, ça commence où, ça s'arrête où pour vous, Guillaume Bigot?
Je veux revenir sur ce point parce qu'il est absolument clé, en fait. Et on se gargarise en disant mais il ne faut pas tomber dans les clichés ou dans le simplisme. Et on cultive un cliché et un simplisme total, en fait. Parce que, à nouveau, je reprends cette expression, c'est dormez bien les petits-enfants, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, on va d'ailleurs, à la place des musulmans, disculper la religion musulmane. Mais voyez jusqu'où va ce déni. Le déni est un mécanisme psychologique extrêmement puissant. Je vous signale qu'il y a des femmes enceintes qui vont jusqu'à 7 mois, elles ont un ventre comme ça, elles disent « non, je ne suis pas enceinte ». C'est un déni. Tous les psychologues savent ce qu'est le déni. Donc la société française est dans un déni.
Mais revenons à ça, quelle est la différence pour vous entre un musulman et un islamiste ?
Alors, je reprends cette réponse parce que je reviens à cette idée de dégradé. Il n'y a pas quelque chose de très clair, il n'y a pas une séparation, une sorte de paroi étanche. Ça serait évidemment très simple, on a tous envie que cette paroi étanche, mais elle n'existe pas dans la réalité. Alors, il faut dire les choses, il y a énormément de gens d'origine musulmane qui ne se revendiquent, comme tous les Français...
La musulmanie n'existe pas. Oui.
De culture musulmane.
Non, ça n'existe pas. Pardon.
De confession musulmane, non, enfin, je vous le dis.
Non, mais bien sûr, mais...
Ces écarts de langage participent aussi
parfois
au flou.
Non, je n'ai pas d'écart de langage, je pense que ce n'est pas du tout une religion, c'est ni une religion ni une race, ça c'est bien évident, mais par contre...
L'islam, c'est une religion.
Oui.
C'est ni une nation, excusez-moi. Okay. Autant pour moi.
Non, bien
Allez,
sûr.
L'internet sémantique, voilà. S'arrête.
Ni une nation, ni une race. En revanche, oui, il y a, de par les origines, les origines de l'immigration, des liens parfois avec cette religion dans le background familial. Or, il y a énormément de nos compatriotes musulmans qui ne se revendiquent même pas comme musulmans. Ça, c'est très important, il faut le dire. Il y a beaucoup de Français d'origine musulmane, je reprends sur cette expression entre guillemets, qui disent « mais je n'ai rien à voir avec l'islam, foutez-moi la paix », d'une part. D'autre part, bien sûr qu'il y a des musulmans paisibles, il y en a plein. Heureusement, ce n'est pas le sujet. Je dis simplement qu'en revanche, on ne peut pas tracer une frontière aussi simple entre ce qui est de l'islamisme et ce qui est de la pratique musulmane. Pourquoi ? Parce que cette religion, ce n'est pas Jésus, d'accord ? On voudrait que ça soit Jésus, mais ce n'est pas Jésus. En fait, Mahomet, c'est Napoléon. C'est une religion qui a avancé par la guerre. Et c'est une religion qui a théologisé, qui a tout un discours sur la guerre. Or, c'est aussi une religion qui est très sensible au rapport de force. Dans l'islam, vous avez trois territoires. Le territoire de la trêve, le territoire de la paix et le territoire de la guerre. Le territoire de la trêve, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, finalement, il y a un rapport de force qui est défavorable à l'islam. La religion musulmane, même les salafistes, même les plus fous, disent dans ce cas, on est en minorité, on doit s'écraser. On ne doit pas avancer parce qu'on est en minorité. Deuxièmement, quand on a installé l'islam, on applique la charia. Et troisièmement, on est en territoire de guerre, on est agressé, etc. On se défend, on se bat. Or là, qu'est-ce qui se passe ? Pour les islamistes, c'est-à-dire les radicaux, ils disent « nous sommes en territoire de conquête ». Et pourquoi nous sommes en territoire de conquête ? C'est très simple. Parce que la France n'est plus la France, en réalité. C'est-à-dire que la France n'a plus de sacré. Le sacré, ça veut dire qu'on est prêt à tuer et qu'on est prêt à mourir. Si on n'est pas prêt à tuer et à mourir pour le drapeau, tuer et mourir pour la République et pour la liberté...
C'est le cas des policiers.
Et pour la liberté, nous n'avons plus de sacré. Et si nous n'avons plus de sacré, évidemment qu'ils vont avancer. Voilà. Et il faut arrêter que ce prêchi-prêcha du rectorat...
Mais revenons après, vous allez en parler.
Le rectorat de Versailles est surréaliste.
Vous allez en parler, justement. On va revenir à la jeunesse, d'ailleurs, de cet acte terroriste. Et il y a de quoi, effectivement, être en colère. Mais on va aussi essayer de plancher sur qu'est-ce qu'on peut sanctionner et qu'est-ce qu'on n'a pas encore à sanctionner. Parce que c'est la question de fond, donc je vous la poserai inlassablement. Vous avez 3 minutes pour plancher. Guillaume Bigot, restez avec nous. Tout comme Rosa Méziane, les voix de la politique reviennent dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Et quand la politique fait bouger la France, place aux voix de la politique. Avec Guillaume Bigot et Rosa Méziane ce soir, le gouvernement a-t-il les moyens de faire reculer l'islamisme ? Et si oui, quels moyens concrets ? Justement, on a donné 2 minutes à Guillaume Bigot pour continuer à plancher. À partir de quel moment faut-il sévir et jusqu'où faut-il rester tolérant ? Quels sont les propos ou les actes qui doivent pousser, par exemple, soit à faire condamner une personne, soit à la faire expulser le cas échéant ? Et quels sont ceux qui passent encore, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, Guillaume ?
Écoutez, il faut prendre en compte un facteur simple qui est profondément ancré dans notre tradition républicaine, administrative, c'est la notion d'ordre public. D'ordre public, simplement, tout ce qui est de nature à troubler l'ordre public doit être interdit. La liberté
ça, c'est
des
déjà
uns.
Dans la loi de la laïcité.
Sauf qu'il me semble que cette idéologie islamiste, sous toutes ses déclinaisons, sous toutes ses formes, y compris le tablir quiétiste auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire une orthopraxie très très forte de l'islam qui tend à enfermer, si vous voulez, une communauté sur elle-même, à partir du moment où des gens utilisent, détournent comme vous voulez, ou l'utilisent, ou l'appliquent, on s'en fiche, c'est même pas notre sujet, cette religion pour décapiter des professeurs... Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est menacé dans sa vie, qui passe à côté d'une librairie islamiste, y compris avec des livres quiétistes, et c'est comme si vous sortiez des chambres à gaz, vous retournez en Allemagne, vous voyez des librairies nazies, enfin, au secours.
Mais d'où
c'est
mon parallèle tout à l'heure, mais...
Pardon, Rosane, juste vous dire qu'il me semble semble que, effectivement, vous avez, je suis assez d'accord avec cette. Tout à l'heure, en filigrane, vous avez dit on a interdit l'antisémitisme, on a interdit le racisme.
Le négationnisme.
Le négationnisme. Moi, il me semble que la France doit devenir le tombeau de l'idéologie islamiste. C'est clair. Voir le tombeau des islamistes.
Moi, c'est pas quelque chose qui. Au contraire, c'est quelque chose que je prône. Ça peut paraître très extrême, mais il faut juste, à un moment donné, s'entendre sur la définition. Oui, et je pense qu'on
c'est
va avoir.
C'est ce que je me tue à vous demander.
Oui,
mais parce que vous parlez à deux personnes qui ne sont pas théologiens, toi non plus. Et donc, à un moment donné, on a aussi notre propre niveau et notre propre grille de lecture et nos propres témoignages.
Pourquoi je me permets d'insister sur cette personne des théologiens aussi et les questions d'ordre public. En revanche, la loi qui s'applique sur certaines personnes qui pourraient en sortir, elle concerne tous les Français et pas seulement ceux qui connaissent telle ou telle religion.
Je peux répondre,
du coup. C'est-à-dire qu'en fait, il a dépeint effectivement un islam particulièrement guerrier. Mais la plupart des religions ont ce genre de verbatim. Moi, je reprends des passages du Talmud. Bah, écoutez, on les lira ensemble si vous voulez. On a des choses où on caractérise les infidèles ou en tout cas ceux qui ne sont pas.
Mais comme vous savez, le Talmud s'interprète et la Torah s'interprète. C'est ça la différence.
Et c'est exactement pareil pour le Coran.
Non,
et c'est,
au pied de la lettre.
C'est une vision. C'est un certain courant de l'islam, mais il est interprété. Des théologiens depuis des siècles ont interprété le Coran. Vous en parlez avec des théologiens, ils vous le diront mieux que moi. Non, le Coran s'interprète de la même manière que le Talmud s'interprète et que le Second Testament aussi. Donc il faut faire attention à vouloir dissocier en fait les textes religieux. Il y en a qui sont crédibles, il y en a d'autres moins. Bon, moi je pense que c'est pas le sujet et qu'il y a effectivement au sein des religions des passages à un moment donné de prosélytes ou en tout cas de conquêtes qui a donné des textes qui peuvent paraître très violents ou qui le sont clairement. Maintenant, ce qui est compliqué et dans le quotidien, en tout cas des Français de confession musulmane, c'est comment en fait dans sa pratique religieuse, j'arrive à concilier des textes que je ne sais peut-être pas interpréter avec mon quotidien de tous les jours. Ça, c'est le travail, pas forcément de l'imam, parce que l'imam, lui, et c'est vrai qu'on a une vision très chrétienne au final de l'islam. L'imam, c'est celui, exactement, il n'y a pas de clergé. Donc l'imam, c'est celui qui va conduire la prière. Mais ce n'est pas forcément, et c'est lui d'ailleurs même qui ne devrait pas prêcher. En revanche, le travail des théologiens, et je pense qu'il n'est pas suffisamment audible en France, parce qu'il y a des théologiens français qui font un travail extraordinaire, mais qu'on n'entend pas suffisamment, et on le disait tout à l'heure, le discours d'Hassan Chalgoumi, très sincère, un discours de paix, certes, mais s'il n'est pas audible auprès de ses fidèles, ça n'a aucun intérêt de vouloir absolument le greffer à, j'aime pas le mot de communauté musulmane, parce qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et d'ailleurs, c'est peut-être un défaut, le fait de vouloir toujours expliquer que l'islam est une religion de l'étranger. Je pense qu'il faut admettre, aujourd'hui, en 2020, que l'islam est aussi une religion française et que l'islamisme, ou en tout cas les principes de radicalisation, deviennent français. Et ça, c'est quelque chose encore où on a beaucoup de mal.
Si on a un doute, il faut demander aux Syriens. Hein. Ils sont fait maltraiter par des Français. Ouais. Hein.
Une personne qui est française et qui est en garde à vue toujours, c'est M. Sefrioui, qui est franco.
Et c'est pour ça que c'est un problème français. Marocain. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de reconnaître aussi cette francité quelque part du problème, alors on se condamne à avoir constamment des interlocuteurs qui sont ou des radicaux ou de l'étranger, ce qu'on refuse aujourd'hui. Et on ne peut pas avoir laissé 40 ans d'influence turque, algérienne, marocaine ou du Qatar ou de l'Arabie Saoudite et penser qu'au final, ces courants en fait, de l'islam ou cette manière de pratiquer l'islam n'allait avoir aucune incidence auprès des fidèles en France. Exactement.
Guillaume Bigot, vous vouliez revenir notamment sur la manière...
Je voudrais répondre à vos questions, Jean-Marie, vraiment.
Mais j'y tenais, c'est bien.
Parce qu'il me semble qu'il y a une solution.
Ouais.
Cette solution, c'est Bonaparte qui l'avait expérimenté avec le judaïsme.
Le concordat.
Alors, le concordat, ça supposerait... C'est une partie du concordat. C'était dans le dispositif du concordat.
C'est une grosse entorse à notre loi de la laïcité.
Complètement, mais vous ne sanctuarise pas, les lois. Enfin, les lois, vous savez, c'est
le peuple...
On peut en parler. Alors, je suis premier à dire qu'il faut arrêter d'obéir à des traités, parce que les traités, si le peuple n'est pas d'accord avec
les traités,
on l'école à la corbeille, et bien même chose pour les lois.
Vous seriez prêt à déchirer ou à réécrire la loi de 1905, qui était la séparation de l'Église à l'État, pour que l'État puisse choisir quels imams ou alors quel type d'islam il tolère.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans la démarche de Bonaparte dans le concordat et dans l'instauration disons du consistoire israélite et c'est ça dont il est question, la structuration d'une religion qui n'était pas elle-même avec un clergé, etc.
C'est ça.
Mais c'est pas tellement ça parce que je pense que c'est un peu fanfaron et c'est un peu... d'imaginer que la France, qui est très forte, je suis très, un très, très grand patriote, a le pouvoir de structurer une religion qui, au plan mondial, n'est pas structurée. Ça m'étonnerait. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire comme Bonaparte l'a demandé au rabbin. C'est-à-dire, il leur a dit, il leur a posé une question très simple, c'est la question de la loyauté patriotique. Il leur a dit, si vous vous retrouvez demain dans une guerre, sur un champ de bataille, face à un juif qui, en face de vous, porte les armes contre la France, vous le tuez ou vous ne le tuez pas? C'est ça la question. La seule question à poser pour faire la part entre les islamistes.
Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a été le cas. Si on prend Ahmed Merabet qui était devant.
Il y a des musulmans qui seront tués pour la France,
c'est
ça.
Mais c'est parce que ce soit dans l'armée. Mais c'est parce que vous dites ça. Ça n'a aucun rapport.
Non, bien sûr, je sais. Ça a un rapport aujourd'hui en France.
Je n'arrête pas de dire qu'il y a 20% des gens qui servent sous le drapeau français qui ont des origines ou un lien avec cette religion, voire même qui se réclament cette religion.
Et d'ailleurs, l'armée n'a aucun problème de laïcité avec ses militaires.
Et pour cause, parce qu'il y a un certain sens.
Mais il y a une question du lien du sang, des frères d'armes.
Voilà. Voilà.
Et
bien
parce
sûr.
Qu'il y a aussi une certaine discipline dans l'armée qui s'applique
exactement.
À tous.
Et une égalité.
Et une ouverture d'esprit et une fraternité.
Voilà. Donc, je pense
fraternité
que
qu'on manque beaucoup.
Et ce sera d'ailleurs.
Pour boucler la boucle, Jean-Marie, si vous posez cette question, vous ferez la part entre les islamistes et les autres.
Effectivement. Et vous parliez de Bonaparte. Effectivement, avant Bonaparte, les juifs n'étaient pas émancipés en France. Il a notamment posé ce genre de questions avant de décréter l'émancipation des juifs. Et c'était une révolution, non seulement en France, mais même dans.
Il y a une prière pour la République.
Absolument.
Exactement.
Les amis, les vraies voix qui font bouger la France se retrouvent dans quelques instants. Ce sera avec Stéphane Soumier. Place aux entrepreneurs sur Sud Radio et sur Bismart.